France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Toute l'année, tous les jours, il y a une femme que son conjoint ou ex-conjoint tue ou essaie de tuer. Combien d'entre elles vont porter plainte? Je parle sous le contrôle de nos invités, j'ai envie de dire autour de 2%, on y viendra, même pas sûr. Combien d'entre elles vont entendre classer sans suite? Un peu plus de 70%, j'en ai bien peur. Y a-t-il de toute façon un décompte? Combien de violences intrafamiliales jugées? Combien de condamnations? Quel mode opératoire? Quelle qualification? Quelle peine? Quelle récidive? Ne cherchez pas, ça n'existe pas. Et c'est bien le premier problème. Devant la justice, les victimes parlent de roulette ou de loterie en fonction du magistrat, du tribunal, celles qui ont été entendues, celles qui l'ont moins été, celles qui prennent de plein fouet une audience si courte au milieu d'une pile d'autres affaires. En fait, depuis MeToo, et même avant d'ailleurs, la société avance, elle a identifié les violences intrafamiliales. Vraiment, elle a imposé des mots. Féminicide, il faut s'en souvenir, c'est la société qui le fait passer de la rue jusqu'aux tribunaux. Mais quand il y a tant de récidives, quand il y a tant de femmes tuées alors qu'elles avaient porté plainte, quand on ne sait pas faire reculer les chiffres, alors c'est que quelque chose ne va pas. Deux magistrats ont pris les choses en main, l'ont écrit en tout cas dans un rapport remis aujourd'hui aux gardes des Sceaux et surtout balayé aussi devant leur porte. Ils sont avec nous tous les deux ce soir. La France n'a pas fait sa révolution du genre, écrivent-elles et ils, les tribunaux non plus, il faut s'y mettre. Il faut démonter point par point les mots des agresseurs et les pratiques. Vous avez mis un traceur sur le téléphone de votre femme. Pourquoi vous l'avez enfermée dans la maison? Pourquoi vous l'empêchez de voir sa mère? Ça s'appelle le contrôle coercitif. Il n'est pas dans la loi, contrairement à certains de nos voisins. Pourquoi? Ce que nos magistrats veulent, c'est que l'on forme tous les magistrats. Il faut des juges spécialisés dans les violences intrafamiliales, comme chez les Espagnols. Un code des violences intrafamiliales. Changer le vocabulaire. On parlait de féminicide tout à l'heure. Pour les classements sans suite qui vous font presque entendre, vous les victimes, bon, c'était pas la peine de venir. Arrêtez de considérer aussi que seules les ITT, les interruptions temporaires de travail, sont les preuves de la violence. Bref, il faut changer de méthode, peut-être même de A jusqu'à Z. Nous en parlons ce soir en cette journée très spéciale. C'est le téléphone sonne et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Elisabeth, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue, Elisabeth. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, moi j'ai divorcé il y a une quinzaine d'années d'un mari qui était violent en permanence, violent oralement en fait, hein, psychologiquement. Et un soir, j'ai dû partir en urgence avec mes pantoufles au pied et mon sac à main, j'ai arraché dans l'entrée parce que j'ai cru qu'il allait me tuer ce jour-là. Et effectivement, ça faisait 20 ans que ça a duré. Plusieurs fois, j'avais mis les enfants là oui aussi parce qu'il était violent avec les enfants. Là, physiquement et pas seulement psychologiquement. Et en fait, en pleine nuit, donc je suis partie, j'ai appelé les gendarmes de ma voiture parce que j'étais totalement sonnée, je ne savais pas ce qui m'arrivait en fait. Et les gendarmes m'ont demandé tout de suite si j'avais de quoi payer une chambre d'hôtel. Donc effectivement, j'avais un sac à main et de l'argent. Mmh. Et je me suis mise à l'abri en fait chez une de mes collègues de travail. Le lendemain, donc, je suis allée porter plainte comme il m'avait demandé de le faire. Et en fait, il faut savoir que mon mari, quelqu'un qui était très influent localement, en fait, très, très en vue, un homme politique. Donc tout le monde était très gêné de cette histoire-là. Et moi-même, j'ai dû rester pendant plusieurs mois donc chez une collègue de travail qui m'a hébergée, sans dire justement aux gendarmes où j'étais, parce que je savais qu'il avait accès au dossier de gendarmerie, notamment aux fichiers. Donc je ne voulais pas dire où j'étais pour être les gens qui m'hébergeaient à l'abri. Et en fait, donc au bout de quelques mois, donc il y a eu une procédure de divorce qui n'était pas du tout à l'amiable au départ, puisqu'il y avait des dépôts de plainte, bien sûr. Et en fait, j'ai subi des pressions très fortes concernant les enfants. Donc j'ai accepté un divorce à l'amiable, qui était tout à fait unique en fait, puisque je me suis retrouvée avec à peu près 5 ou 10% même pas de la patrimoine familial. Et lui, 90-95. Et le juge, en fait, excusez-moi, le jour du divorce, en fait, on arrive devant un juge. Donc, je parle il y a 10 ans, il y a 15 ans, donc en 2010. Ouais. La juge n'a pas tiqué. Quand elle a vu que je partais, je veux dire, avec 5, je partais avec 95. Et elle n'a pas tiqué. Alors, même que dans le couloir du tribunal, il avait sauté dessus et il y avait des fantômes qui avaient dû le séparer de moi.
Elisabeth, vous savez la question que je me pose, peut-être que vous vous êtes posé aussi cette question, vous, si la même histoire se produisait aujourd'hui, et j'imagine que vous les suivez, ces affaires, parce que ça parle aussi de vous, si la même histoire, à votre avis, se produisait maintenant, Est-ce que vous iriez différemment face à la justice? Et surtout, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont suffisamment avancé pour être sûr que vous serez reçu différemment, ou vous n'avez pas cette certitude finalement?
Alors, je me pose effectivement la question tous les jours, et je pense que maintenant que je vais être à la retraite, je vais aider des femmes dans ce cas-là. Parce que moi encore une fois, j'étais dans une situation privilégiée avec un mari qui aujourd'hui est en grande étude, de la République d'ailleurs. Et moi-même, je ne suis pas à la rue, j'ai un travail, j'ai des cadres, comme on dit en France. Mais néanmoins, je me suis retrouvée au chômage et sans ressources, hébergée par ma secrétaire, avec la trouille au ventre tout le temps, en fait. Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça changerait vraiment. C'était 15 ans que je suis divorcée, j'ai toujours peur. Là, j'ai pris un chrono pour vous parler. Parce que je ne veux pas que ça retombe ni sur les enfants, ni sur quoi que ce soit. Mais en fait, je pense qu'effectivement, la réaction des gendarmes, des policiers serait certainement différente. Moi, à l'époque, ils ont été très clairs. Ils ont été très, très gentils avec moi. Ils voulaient même, entre guillemets, se payer mon mari. Donc ça, je ne voulais pas.
Ce qui nous fait rentrer dans d'autres considérations, pardon, Elisabeth, et je ne veux pas qu'on aille trop dans ces directions-là. Et vous non plus, d'ailleurs, parce que vous nous l'avez dit aussi. Mais en tout cas, votre témoignage, il est précieux. Je vous remercie beaucoup sur notamment ce dont on va parler peut-être beaucoup dans cette émission, le passage coercitif en fait, et comment tout cela fonctionne et comment tout cela s'enclenche. Je voudrais vous présenter les gens qui sont autour de cette table. Il y a Gwenola Jolicos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes première présidente de la cour d'appel de Papeete. Il y a Éric Corbeau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes procureur général de la cour d'appel de Bordeaux. Vous vous connaissez bien tous les deux parce que vous avez longtemps travaillé ensemble, et vous avez surtout écrit ce rapport qui s'appelle Avif sur les violences intrafamiliales à destination du garde des Sceaux, remis aujourd'hui. Et je voudrais dire aussi que vous êtes dans un documentaire qui est remarquable sur Arte, c'est important de le dire, parce qu'il a été diffusé hier, il est toujours évidemment en ligne, qui est signé Karine Dufour, qui s'appelle Je vais te tuer, où on assiste justement aux audiences de conjoints violents. C'est à la fois édifiant et instructif. J'ai envie de vous poser la même question qu'à Elisabeth Gwenola Jolicos. D'abord, est-ce que 15 ans plus tard, vous avez le sentiment qu'on aurait reçu Elisabeth différemment, que vous l'auriez vu, vous, très différemment de ce qu'elle a vécu ou pas? Est-ce que le temps a fait cette affaire-là, malgré tout?
Ça nous permet de dire que l'institution judiciaire a énormément progressé au cours des 15 dernières années. Bien sûr, elle a évolué, elle a bougé en fonction des interpellations de la société. Je le dis souvent, le peuple des femmes est au pied des palais.
Oui.
Donc nous entendons ces demandes qui montent vers nous, et l'institution judiciaire a beaucoup, beaucoup progressé.
Au pied du palais, ça veut aussi dire qu'on tape à la porte en disant « peut mieux faire ». Ça veut dire ça aussi.
Ça veut dire que l'on peut effectivement contester un certain nombre de ces fonctionnements. Et moi, ce que j'entends de ce témoignage de madame, c'est qu'elle nous illustre à nouveau ces difficultés d'articulation entre le pénal et le civil. Qu'est-ce que je veux dire par là? Elle nous parle de violence, elle nous parle d'inquiétude. D'ailleurs, vous avez vu, au passage, elle dit « j'ai eu peur qu'il me tue ». Donc cette menace de mort, que je retiens toujours comme d'un très haut niveau d'intensité dans les violences faites aux femmes, est à nouveau perceptible dans ce témoignage. Mais ensuite, on nous parle de divorce. On nous parle de pensions alimentaires, on nous parle d'argent et peut-être d'enfants, de garde et d'autorité parentale. Donc cela illustre parfaitement ce lien intime pour les gens entre eux, les violences qu'elles subissent et les questions maritales, les questions civiles. Et c'est pour ça que je dis que la justice ne doit plus être fragmentée, émiettée autour de ces sujets, et qu'il faut que nous prenions en compte la globalité de la situation.
Ce que vous dites dans ce rapport, Éric Corbeau, en effet, c'est émiettée, ça veut dire que dans une histoire comme celle-là, par exemple, si les enfants sont en danger, c'est le juge des enfants, elle va divorcer, c'est le juge aux affaires familiales, mais il y a eu quand même violence, donc ça va être un autre juge encore, et au fond, ce qui manque, et il sert peut-être à ça, ce juge des affaires, contre les violences interfamiliales que vous appelez de vos voeux, il sert à ça, il sert à tirer tous les bouts en même temps, en fait, parce qu'évidemment, c'est la même histoire.
C'est exactement ça. Ont été mis en place depuis 18 mois, 2 ans maintenant, des pôles vifs qui permettent dans chaque tribunal aux magistrats différents de discuter des situations. Bon, c'est très bien, c'est de l'échange d'informations très utile, il faut renforcer ces systèmes. Mais nous disons, dans ce rapport que nous avons remis au garde des Sceaux tout à l'heure, qu'il faut aller plus loin en créant finalement un juge spécialisé en matière de vif. Et quand on dit spécialisé, ça veut dire quelqu'un de formé, qui connaît cette matière et qui connaît les concepts à l'œuvre dans cette violence systémique. Et si, jusque-là, et nous l'avons expérimenté lorsque nous étions en responsabilité à la cour d'appel de Poitiers, nous pouvons déjà, sans loi, sans texte, rien que par de l'organisation, et nous l'avons fait, de créer des audiences dans lesquelles les mêmes juges vont juger dans la même après-midi l'affaire pénale et l'affaire civile, les violences et le divorce. C'est possible, nous l'avons fait, et on va poursuivre cette action.
D'ailleurs, c'est joli dans votre rapport, la manière dont vous le dites, Gonella Jolicoeur, parce que vous dites, en fait, la justice ne cherche pas à résoudre un problème, elle cherche à résoudre une affaire. À partir du moment où on inverse, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont une question de vocabulaire, en fait, hein, où on parle d'un problème, mais plus d'une affaire. Une affaire, ça se met sur une pile. Un problème, c'est plus compliqué que ça. Rien que dans le mot.
J'en appelle souvent à la sémantique.
Ouais.
Je pense qu'il faut que nous ayons les bons mots, et d'ailleurs, énormément de mots ont émergé au cours de cette dernière décennie. Vous avez parlé de féminicide tout à l'heure. Je suis une des premières à avoir utilisé ce mot dans une enceinte judiciaire. C'était dans une audience solennelle de rentrée au tribunal judiciaire de Pontoise. Et je me souviens très bien de mes collègues très inquiets, venant me dire « mais pourquoi utiliser ce terme qui n'est pas un terme juridique ?» Et à l'époque déjà, j'étais convaincue de la force mobilisatrice de ce mot et du destin qu'il allait avoir. Mais il y en a eu beaucoup depuis. Après l'emprise, le contrôle coercitif par exemple.
Alors on va y venir, on va y venir longuement au contrôle coercitif, parce que juste avant qu'on retourne au standard et au fond, et l'allusion que vous avez faite d'ailleurs, Éric Corbeau, est intéressante. Quand on a un juge spécialisé, il sait aussi parler aux hommes qu'il a, et aux femmes d'ailleurs aussi, parce que la parole elle circule énormément, aux hommes en face. Et ben ça, c'est pas si simple. C'est pour ça que j'ai voulu citer ce film, parce qu'on vous voit faire. C'est un sacré exercice d'avoir un gars en face de vous qui, en général, ne comprend pas pourquoi il est là. Ça arrive quand même dans 9 cas sur 10, je parle sous votre contrôle, mais enfin on n'est pas loin. Apprendre à leur parler, c'est quand même un sacré truc. Ils sont en train de se passer la parole l'un ou l'autre, ça m'est égal.
Non, mais je préside ces audiences depuis des années.
Ben ouais.
Et je sais à quel point c'est compliqué d'avoir ces hommes violents à l'audience. Et au fil des années, j'ai bien compris quels étaient les mécanismes qui étaient toujours les mêmes à l'œuvre. Vous dites la dénégation. Mais avant la dénégation, il y a 3 phénomènes majeurs qui sont à l'œuvre. D'abord, la minimisation des faits. Madame la juge, c'était juste une gifle. Ensuite, il y a la psychologisation de la victime. Vous savez, elle est folle. Elle est hystérique. C'est une menteuse, une manipulatrice. Donc adossé à des stéréotypes de genre sur la représentation des femmes. Et puis enfin, il y a l'inversion de la culpabilité. Elle l'a bien cherché. C'est elle qui m'a amenée à devenir violent, moi qui ne le suis pas normalement.
Et c'est la raison pour laquelle nous insistons sur la nécessité de la connaissance. De la connaissance et de la formation des policiers, des gendarmes, des magistrats. Parce que si on ne connaît pas ces mécanismes à l'œuvre, ces mécanismes systémiques qu'on retrouve dans toutes les affaires, on juge mal ces affaires et on les traite mal. Et donc nous insistons sur ce point.
Je voudrais dire, avant de passer au standard, Nicole, ce sera à vous promis, mais le contrôle coercitif, ça existe en Grande-Bretagne, ça existe au Danemark, ça existe chez beaucoup de nos voisins. Là aussi, finalement, on se dit que c'est pas grand-chose, mais ça peut dire beaucoup de choses. Bonsoir, Nicole.
Bonsoir.
Pardon de vous avoir fait patienter, on vous écoute.
En prie. Voilà, moi je suis donc secrétaire dans un cabinet d'avocats. Et j'ai en ligne les victimes, aussi de temps en temps à travers de ce qui vient d'être dit, les auteurs de violences. Et j'avoue que j'ai fini par un petit peu baisser les bras avec les victimes, parce que c'est très difficile d'amener quelqu'un à aller déposer plainte et aller faire l'introspection qui est nécessaire, à se rendre compte que ces femmes-là sont souvent victimes de leur conjoint, de leur compagnon. Et j'ai côtoyé des femmes qui passaient aussi au cabinet parce que il y avait une audience en comparution immédiate, leur époux était venu, elles avaient porté plainte, on les avait arrêtées, elles allaient passer en audience, mais elles voulaient retirer leur plainte. Donc elles sont dans une ignorance déjà du mécanisme de la justice, la première chose qui est à dire, et après elles sont dans une ignorance de elles-mêmes, de ce qu'elles vivent. Donc là, on demande à la justice de réparer quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'état psychologique de la femme. Donc je suis contente et heureuse d'entendre cette initiative pour un magistrat, mais sachant que pour moi, c'est surtout la nécessité d'avoir le temps d'appréhender les situations.
Merci beaucoup, Nicole, pour votre témoignage. Ce que ça dit, en toute chose, c'est valable pour, de toute façon, dans beaucoup de compartiments de la vie, sur les violences intrafamiliales particulièrement. Oui, il y a de la pédagogie à faire. Pour expliquer, voilà comment ça se passe, et vous serez en sécurité. Voilà ce que vous aurez en face de vous. Voilà les questions qu'on va vous poser. Voilà comment ça va se passer, en fait, tout simplement. Et c'est vrai que ces femmes l'ignorent, en fait.
Ce qu'on peut retenir de ce témoignage, c'est l'idée que les femmes dites sous emprise, qui est un concept qui a été utile, hein, qui nous a beaucoup servi et qui est ancien désormais, mettaient la focale sur la femme. Son état psychologique après les victimes, après les violences, comment elle se sentait, comment elle était piégée dans une relation ambivalente entre un homme avec lequel elle voulait rester. Et c'est d'ailleurs cette femme qui arrive à l'audience en nous disant « Madame la juge, je retire ma plainte. Ça m'arrive tous les jours. » Mais au-delà de l'emprise, l'avantage des dernières années et des nouvelles analyses, c'est qu'on est passé maintenant au contrôle coercitif, c'est-à-dire à un changement de regard. Il s'agit de ne plus regarder que la victime, mais de regarder aussi l'auteur. Et la liste des comportements que lui a mis en œuvre pour maintenir sous son emprise contrôle, surveillance et domination, puisque c'est ça le contrôle coercitif, s'accompagne. Donc on a progressé dans les analyses et aujourd'hui ne pas se demander mais enfin pourquoi n'est-elle pas partie avec un air un peu agacé.
C'est plutôt se demander qu'est-ce qu'il a mis en place qui fait qu'elle n'a jamais réussi à partir. Est-ce que vous avez le sentiment, Éric Corbeau, cela dit, une fois avoir vu le prévenu, voire une fois qu'il a été condamné, pourquoi pas, qu'il a compris? Ou est-ce que ce qui est un peu désespérant, c'est qu'au fond, ce que vous avez en face de vous, c'est quelqu'un qui dit « mais j'ai été injustement condamné ».
Alors malheureusement, on a à réfléchir sur la manière dont on traite ces affaires, dont on les juge, et aux condamnations qu'on prononce, qui sont prononcées. Parce que il faut que ces condamnations aient du sens. Et effectivement, on a trop souvent le sentiment qu'on se trouve face à des personnes qui sont condamnées et qui vont utiliser tous ces mécanismes que Gwenola Jolicoz a évoqués, en disant « mais finalement, c'est pas grand-chose, et puis en plus... » et permettez-moi cette plaisanterie, et en plus j'ai été jugé par une femme.
Oui, ouais, bien sûr, mais longtemps, ça. Totalement, évidemment. Hein,
donc, qui, bien sûr, n'a pas compris. Il faut qu'on retravaille, mais là, c'est pas le sujet judiciaire. On est sur un travail intense de reconstruction finalement d'une société qui pourrait se débarrasser de ces centaines d'années de patriarcat et de domination masculine. On en est quand même là, avec un poids très important actuellement, et on le sent très bien, une poussée très vive de mouvements masculinistes, virilistes qui viennent attaquer tous les efforts qui sont menés. Donc il faut que globalement, la société quand même réagisse à cette situation, et puis que nous soyons en capacité condamner ces personnes.
Et d'aller derrière la condamnation, ce qu'on voit beaucoup comme message, c'est mais comment c'est possible derrière la condamnation que le féminicide se produise après.
Absolument.
Par exemple.
C'est pour ça qu'il faut des condamnations qui aient du sens, avec des suivis très adaptés. Là aussi, il faut s'intéresser maintenant aux auteurs, comment on les condamne, comment on les suit, comment on met en place tout un tas de dispositifs qui sont très innovants, très intelligents pour faire parler les gens et leur faire comprendre. Mais il faut s'assurer de la réalité de ce travail et de la réalité de leurs conséquences.
On a un message de Pyro44 sur WhatsApp qui dit « Moi je l'ai vu, le doc, je vais te tuer. J'ai été très surpris de la légèreté des peines infligées aux prévenus. En fait, pourquoi ne pas durcir le code pénal ?» nous dit Pierre.
Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ces mécanismes, vous dites « Comment prévenir les féminicides ?» Et c'est une sorte d'indignation qui se comprend par rapport aux peines, en disant mais finalement, pourquoi on n'arrive pas à empêcher la récidive ? Je crois vraiment que maintenant, on est dans une étape où il nous faut criticiser les situations. Et nous proposons un certain nombre de critères qui nous semblent devoir être pris en compte désormais pour mettre en haut de la pile dont nous parlions tout à l'heure les cas qui nous semblent les plus dangereux. Rapidement, trois critères. Le contrôle coercitif intense, qui est dans 100% des cas prédictifs de féminicide.
Ouais.
Un geste sexo-spécifique dans les violences, la strangulation. La strangulation en France n'est pas, à notre avis, assez pris en compte comme un critère de dangerosité très élevé. Et puis, le troisième élément que je retiens très souvent, c'est « je vais te tuer ». Qui est qu'en fait une manifestation d'une intention criminelle.
Mais est-ce que ça veut dire, pardon de vous interrompre, Gwenola Jolicoz, est-ce que ça veut dire que, en fait, pour l'instant, la justice, au fond, prend ces choses-là séparément ? Effectivement, si on les prend séparément, j'en sais rien, même des insultes, y compris par SMS, devant le juge, ça pèse pas grand-chose, en effet, même si je vois très bien comment ça a pu être reçu. Et puis, de l'autre côté, on parle de la strangulation, mais on parle pas de ces deux choses-là au même moment. Est-ce que c'est ça le souci ? Est-ce qu'il faut aller chercher, au fond, bien plus loin pour acter et donc augmenter la peine ? Est-ce que c'est à ça qu'il faut jouer ?
Il est vrai que lorsque l'on prend les faits de manière individuelle, morcelée, évidemment, on va les minimiser. Tout cela ne prend de sens que lorsque c'est listé, mis en cohérence, et compris dans un grand concept psychosocial, comme par exemple le contrôle coercitif.
Par des magistrats qui savent de quoi ils parlent et qui sont spécialisés en cette matière. On spécialise des magistrats en matière environnementale, en matière économique et financière, en matière de terrorisme, en matière de criminalité organisée. Il faut traiter ce phénomène systémique à la hauteur de sa gravité dans notre société.
Et ce que vous rajoutez, d'ailleurs, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans votre rapport, c'est que au fond, l'un des critères, c'est l'ITT, l'interruption de travail. Donc s'il n'y a pas d'ITT, et d'ailleurs il y en a un dans le film qui dit non mais c'est bon, je n'ai pas fait mal, elle n'a pas eu d'ITT. Comme si du coup on pouvait passer à autre chose. Vous dites il faut l'enlever ce critère-là. En fait, il n'a aucun sens. Le critère de l'ITT, n'a pas toujours un sens. C'est ça l'idée.
Ce que nous disons surtout, c'est que nous n'avons plus aujourd'hui en France un outil à la hauteur de l'ampleur des conséquences des violences faites aux femmes. En fait, nous ne savons pas bien évaluer les conséquences actuelles. Je vous illustre les faits. Est-ce que dans un contrôle coercitif, on serait d'accord aujourd'hui pour qu'un médecin légiste nous dise c'est 10 ans d'ITT ? On ne sait pas faire 10 ans d'ITT. L'ITT, vous le savez, en France, c'est moins de 8 jours, plus de 8 jours. On comprend bien que, en fait, ça n'est plus le bon outil, le bon concept. Nous avons désormais besoin de réfléchir tous ensemble à ce que pourrait être un vrai critère d'évaluation des conséquences des violences faites aux femmes.
Parce qu'on a dans des systèmes de contrôle coercitif des femmes qui, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ont été dans l'incapacité de faire les actes quotidiens, de sortir de chez elles, d'aller travailler, de rencontrer des gens. On est dans ces situations-là. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'ITT dans les normes actuelles, je pense qu'il faut évoluer sur ce point.
Il y a deux magistrats autour de la table au téléphone sonne ce soir. Il y a Gwenola Jolicoz, il y a Éric Corbeau et il y a vous aussi, Delphine. Bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, simplement, je voulais réagir également en tant que professionnelle de la justice, également.
Delphine, pardon de vous interrompre, mais on ne vous entend pas bien. Vous hachez beaucoup. Bougez pour voir.
J'essaie de me déplacer. Est-ce que vous m'entendez mieux ?
Ouais, c'est mieux. Allez-y, ouais.
Donc, j'ai été juge aux affaires familiales et également juge des violences intrafamiliales en matière pénale. Et je constate malheureusement une sorte d'impuissance, un constat d'impuissance du magistrat. Ce n'est pas ce que mes collègues sur votre plateau souhaitent que nous modifions dans l'état actuel de la loi, parce que je constate qu'en une heure d'audience où on essaie de faire comprendre un auteur violent que son comportement n'est pas normal, et on essaie de faire comprendre la même chose à la victime qui nous supplie que son époux revienne à la maison le soir même et surtout qu'on l'envoie pas en prison. On a l'impression que c'est plus un problème de société et d'éducation, notamment très jeune des hommes en l'occurrence, puisque c'est quand même plus de 90% des cas de violence intrafamiliale qu'il faudrait résoudre plutôt que en une audience où on est de faire ce qu'on peut, on va dire, avec les moyens qu'on a, mais voilà, chacun retourne chez soi à la fin de l'audience, et moi j'ai un petit peu un sentiment de frustration. Ouais.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Delphine. Qu'est-ce qu'on fait avec l'impuissance et la frustration de votre consoeur, Gwenola Jolicoz ?
Eh bien moi je pense qu'il ne faut pas être condamné à l'impuissance. Et que une grande institution comme l'institution judiciaire doit tenir sa place, juste sa place, mais toute sa place, dans ce que lui demande la société. Effectivement, cette collègue a raison et je la salue. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout faire au sein des audiences. Mais déjà, faisons ce que nous avons à y faire. C'est-à-dire y déployer un vocabulaire et un positionnement qui soit à la hauteur de ce que la société nous demande. Je pense que la justice doit participer à la conversation mondiale sur ce sujet.
Pardon, allez-y, Monsieur Corbeau, vous voulez intervenir ?
Et puis, elle doit aussi, la justice, se positionner avec un élément qui est fondamental, c'est l'écoute des victimes et l'humanité. Hein. Et là-dessus, on peut aussi évoluer dans notre manière de requérir quand on est procureur ou de présider une audience quand on est juge. Et donc, voilà, là aussi, on a cette révolution à faire peut-être dans notre institution.
On a ce message d'Anthony qui nous dit ceci. Ma cousine s'est suicidée et il y met des guillemets. Il le fait évidemment sciemment il y a plusieurs années pour fuir son compagnon manipulateur, mythomane et violent. Sa famille s'est toujours sentie démunie et impuissante parce que l'enquête a conclu évidemment à un suicide. Et vous l'évoquez ça dans votre rapport, en prenant notamment l'exemple de Christina Radi, qui était l'ex-femme de Bertrand Cantat, dont la question se pose vraiment de savoir si son suicide est directement lié effectivement aux maltraitances qu'elle a pu subir. Effectivement, ça se passe pas très loin de chez vous, du côté de Bordeaux. Mais il y a ce chiffre qui m'a fait sursauter, hein. 6 à 800 suicides de femmes ont pour origine les violences. C'est ce que vous dites dans ce rapport. C'est un chiffre, colossal.
Ce chiffre est impressionnant et je le trouve intéressant lorsqu'il est cumulé aux autres. Quand on parle de 120 à 140 femmes tuées chaque année, 25% des auteurs se suicident. L'année dernière, 23 enfants ont été tués dans le cadre de ces scènes de féminicide. Nous rajoutons le nombre de suicides forcés que vous venez de citer. Nous en sommes donc à plus d'un millier de cadavres dans les familles en France chaque année.
Et quand on parle de violence, c'est quand même plus de 250 000 femmes qui ont osé pousser la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie. 250 000 femmes, ça veut dire 250 000 mises en cause. On est déjà à 500 000. Rajoutez les enfants, allez, 200, 300 000. Rajoutez les parents qui récupèrent leur fille un œil au beurre noir le samedi soir parce qu'elle est partie avec ses valises et ses enfants sous le bras. On est à combien de personnes? C'est presque 1 million, rien qu'avec ces chiffres-là à la hache, on est à près de 1 million de personnes concernées chaque année. Et près de au moins, voire plus, de 1000 mortes par an. On n'est pas dans un phénomène de société, on est dans quelque chose de beaucoup plus dramatique.
On a parlé des mots tout à l'heure, je citais le mot féminicide, vous avez parlé d'emprise, effectivement, ce sont des mots qui sont rentrés dans notre vocabulaire, avec un peu de chance, contrôle coercitif, qui rentre à la fois dans notre justice et notre vocabulaire aussi. Et puis, dans votre rapport, il y a ce terme très juridique, classement sans suite. Et on sait bien la violence que ça peut être, classement sans suite, parce que vraiment, c'est ce que je disais en introduction pour n'importe qui, c'est franchement, merci de vous être déplacé, mais ça paye même pas l'essence pour venir, en fait. Ça veut dire ça sert à rien. Et c'est vrai que c'est très symbolique. Mais ce que vous voulez faire, c'est le changer par enregistrement sans poursuite. Et d'enregistrement, il y a, j'ai bien noté, j'ai pas jeté, j'ai noté. C'est au moins ça. Et même ça, ça compte, en fait. Ça compte énormément, Éric Corbeau.
Bien sûr, et j'ai été suffisamment longtemps procureur de la République pour connaître le poids de ces classements sans suite. Hein, ces mots qui claquent. Et d'ailleurs, des femmes s'appellent les classées. Hein. Il y en a des associations de femmes qui disent « nous sommes les classées ». Ça veut dire ce dossier qu'on n'a pas regardé et qu'on a mis dans une boîte. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que les magistrats du parquet travaillent, les enquêteurs enquêtent, voilà, et on continue à travailler en ce sens. Mais ce mot fait mal, il faut qu'on puisse le changer. Nous avons proposé enregistrement sans poursuite, ça veut dire qu'on a pris en compte, on vous a écouté, ce que je disais tout à l'heure, on vous a écouté. Malheureusement, on n'a pas pu rassembler les preuves suffisantes pour engager des poursuites et pour amener l'auteur devant le tribunal, mais néanmoins, on l'a gardé et on conserve trace de cette plainte. C'est très important, ce changement de nom. Et on peut aussi le notifier de manière beaucoup plus humaine. Et ça se fait, d'ailleurs, beaucoup de procureurs le font, par l'intermédiaire d'associations d'aide aux victimes qui peuvent conseiller et suivre ces femmes également.
Je rebondis sur ce que vous disiez à l'instant sur les chiffres, effectivement, qui sont évidemment terrifiants, mais il y a ceci qui m'a sauté aussi au visage. Effectivement, j'ai découvert, en fait, en essayant de les trouver, ces chiffres-là, j'ai découvert grâce à vous qu'il n'y a pas de décompte. En fait, il n'y a pas de décompte. Pas de décompte des peines, pas de décompte de ce qui a été jugé, combien d'hommes ont été condamnés, quels sont les modes opératoires, quelles sont les qualifications, quelle est la peine, quelle est la récidive. Ça dit beaucoup de choses quand on ne décompte pas. Parce qu'effectivement, peut-être que quand on aura... Pour l'instant, on a la pile des victimes, mais on n'a pas la pile de ce qu'on a pu faire au fond des coupables. Et je m'interroge, en fait, comment se fait-il qu'on n'ait pas ces chiffres-là?
Je crois
pourquoi ça nous intéresse pas, quoi?
Pour qu'il y ait une voie judiciaire, hein, je parle de participer à la conversation. Pour cela, il faut avoir des mots et puis il faut aussi avoir des chiffres. Il faut globalement avoir des connaissances. Et donc, je pense que l'institution judiciaire elle-même doit désormais produire de la connaissance. Et elle a tout pour le faire, puisqu'elle traite ces sujets tout au long de l'année. Nous pourrions, par exemple, effectivement, travailler sur les modes opératoires. Je suis convaincue que ça nous apporterait beaucoup de mieux comprendre comment les femmes sont tuées. Vous le savez, les femmes ne sont pas tuées comme les hommes. Les cadavres de femmes dont j'ai les photos dans les dossiers de cour d'assises que je traite ne sont pas tuées comme les hommes. Ça ne sera pas un coup de couteau, ce sera 30 coups de couteau. Ce sera un corps extrêmement abîmé, souvent le visage atteint, visage considéré comme étant le lieu et du contact social et de la séduction. Donc on voit bien que cette notion de surmeurtre et cette notion de modes opératoires différents pour les meurtres des femmes ou pour les meurtres des hommes, eh bien, ça nous apprend beaucoup. Oui. Et je pense que c'est à l'institution judiciaire elle-même d'avoir un discours dessus.
Et on verrait surtout que ça commence toujours de la même manière. Et peut-être que dès qu'on voit apparaître effectivement un certain nombre de signes, on saurait dire statistiquement, voilà où ça nous emmène. Ça paraît tellement être l'enfance de l'art, Éric Corbeau.
Sans aller dans de la justice prédictive, mais effectivement, oui. C'est quand même quelque chose que nous portons en disant ces signaux faibles ou ces signaux forts, parce que peu de signaux sont faibles, ils sont tous tout de suite très forts, pour les victimes en tout cas. Il faut pouvoir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, criticiser les dossiers, prioriser certains dossiers qui peuvent être là source d'inquiétude en se disant attention, ces éléments-là vont nous conduire à quelque chose de plus grave ou peuvent nous conduire à quelque chose de plus grave. Donc il faut qu'on renforce le contrôle de l'auteur et qu'on agisse en conséquence.
Bonsoir Caroline.
Bonsoir.
On vous écoute Caroline.
Oh ben moi c'est simple, j'ai vécu l'enfer. Mais ça fait 5 ans et demi que ça dure, donc j'ai fui le domicile en 2020. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai fui avec mon fils et mes valises. Je me suis retrouvée chez mes parents. J'ai été déposée plainte, on m'a pas écoutée. J'ai réussi à obtenir une ordonnance de protection avec la juge. Le monsieur a réussi à retourner la situation. Il a fait appel 6 mois plus tard. Et le jugement, en fait, a raison de l'acceptation en fait de cette décision, c'était que monsieur était loin, donc plus dangereux. Donc on lève l'ordonnance, ça lui a redonné le tout pouvoir. Il a continué de me harceler. On m'a mis, alors qu'il voyait son fils dans des espaces médiatisés une fois par mois, on m'a mis en face d'une assistante sociale et d'une psychologue pas du tout formée durant une heure, qui m'ont jugée toxique et dangereuse pour mon fils. Monsieur a saisi la juge des enfants, s'en est servi et on m'a retiré mon fils. C'est complètement absurde comme situation. Et donc ça, c'est le tribunal de Limoges. Non, mais je tiens à souligner quand même. Hein. Donc le tribunal de Limoges confond conflit et violence. Même les avocats ne sont pas formés. C'est complètement absurde. Alors que j'avais des attestations médicales d'amis qui ont vu des scènes de violence, donc psychologique et physique. Tout s'est retourné contre moi, mais sans preuve en fait. J'ai été jugée toxique et dangereuse par deux personnes, et ça a suffi pour tout retourner la situation. Et aujourd'hui, 5 ans et demi plus tard, je ne suis toujours pas divorcée. Après 8 jugements que monsieur a sollicités, mon fils a été entendu 7 fois par les juges, mais seulement entendu et pas écouté, parce que lui aussi, il a vécu des violences physiques et psychologiques, et ça continue aujourd'hui, il a 16 ans. Et là, vous allez me dire que le système, il est en train de changer. Ah bon? Donc moi, je suis encore suivie psychologiquement. J'ai un traumatisme, des traumatismes qui, je pense, ne partiront jamais. Et vraiment, je suis très en colère contre ce système juridique. Mais tout... Alors, j'ai raconté mille fois mon histoire auprès d'associations, auprès de la gendarmerie, auprès des tribunaux, que ce soit la JAF, que ce soit la juge des enfants. On n'est pas écouté. Malgré toutes les attestations.
Caroline, on a entendu votre colère et j'espère que vous avez... Enfin, on est heureux aussi que vous puissiez profiter de l'antenne pour le dire et le dire tel que vous l'avez fait. Gwenaëlle Ajolie-Cause, il y en a plein des Carolines.
Mais moi j'entends.
Histoire différente, mais même Caroline.
Mais c'est ce que nous disons dans notre rapport. Il faut que nous entendions ces femmes qui manifestent leur colère, qui disent que l'institution judiciaire ne répond pas à leurs demandes. J'entends aussi absurdité. Absurdité des décisions. C'est donc ce que nous traduisons par incohérence, émiettement, fragmentation. Nous parlons bien là d'une succession d'un juge pénal, d'un juge aux affaires familiales et d'un juge des enfants. On a entendu les trois dans ce témoignage. Donc c'est exactement ce que nous disons. Je pense que nous devons faire des progrès parce que ce que dit cette dame, c'est éminemment respectable et écoutable. Je crois que l'institution judiciaire doit progresser.
Ce que j'entends aussi et que j'ai lu dans votre rapport, dans ce qu'elle dit en creux, Caroline, c'est une espèce de manière de séparer le mari du père. Donc mauvais mari, mais bon père. Et on se retrouve avec des situations situation avec l'enfant au milieu qui peut créer des situations qui ressemblent, par exemple, à celles que Caroline nous a décrites.
Ça fait partie de ces faux concepts que nous devons combattre et que l'institution doit combattre, là aussi par la connaissance et la formation. C'est ces doxas avec lesquels nous avons pu, nous les magistrats, pu travailler pendant des années. Mauvais mari, mais bon père, pour ne pas couper le lien familial avec le père. On sait que ce n'est pas vrai et que dans certaines situations, il faut accepter de couper ce lien. C'est aussi cette doxa du syndrome d'aliénation parentale que pourtant tous les chercheurs dont tous les chercheurs ont dénié la véracité. Donc il faut sortir de ces vieilles doxas, ça passe à nouveau par la formation et la connaissance.
Voilà, vous avez été émus les amis par le message de Caroline, vous nous envoyez des messages sur WhatsApp, on les reçoit, on les a entendus. Total soutien à Caroline qui a légitimement exprimé sa colère, c'est ce que nous dit Delphine notamment, on les transmettra, je suis sûre que ça lui fera du bien. Et on l'embrasse surtout. Merci beaucoup, merci en tout cas à tous les deux, merci à tous pour vos nombreux appels. J'en reparle de ce film sur arte.tv parce que vraiment il est super, signé Karine Dufour, qui s'appelle Je vais te tuer, ça nous apprend tellement de choses. La question des petits bateaux peut-être, c'est celle de qui? C'est celle de Leïla.
Pourquoi les poules caquettent après avoir pondu un œuf? Merci.
Allez, la réponse dans 3 minutes.